connaissance. Étudiante en sociologie, je me souviens de l'un de mes premiers cours de première année qui m'avait marqué. « Quelle est la pire chose pour l'être humain ?» nous avait demandé le professeur. « L'indifférence. Mieux vaut un signe de reconnaissance négatif, même s'il passe par la colère, les cris, la violence, que pas de signe de reconnaissance du tout. Ou autrement dit, tout, mais pas l'indifférence. La soif de reconnaissance est un besoin vital. Il suffit de regarder un enfant mettre en place la plus belle des bêtises, même s'il doit se faire réprimander par ses parents, s'il a le sentiment qu'ils ne font pas assez attention à lui. La reconnaissance, c'est un besoin humain vital, et reconnaître une personne, c'est admettre sa valeur sociale et lui être redevable de quelque chose en retour. Alors, à la hauteur d'un pays et de l'histoire d'une dépossession, empreinte de traumatisme et de souffrance, quelle est la portée de cette reconnaissance? On en parle ce soir avec Elsa Petit-Hassan, secrétaire de l'AFPS 41. On parle de la Palestine, bien sûr, et du génocide en cours à Gaza avec elle. Bonsoir Elsa.
Bonsoir.
Tu es l'une des voix qu'on entend souvent dans la lorgnette. On est heureux, alors je ne sais pas si c'est le bon mot, mais de te recevoir à nouveau pour parler de la situation en Palestine et à Gaza. L'émission va beaucoup tourner autour de la reconnaissance par la France de la Palestine. Alors pour commencer, Emmanuel Macron a reconnu lundi l'État de Palestine au nom de la France depuis la tribune de l'ONU. Je vous propose de réécouter un petit extrait du discours.
C'est pourquoi, fidèle à l'engagement historique de mon pays au Proche-Orient, pour la paix entre le peuple israélien et le peuple palestinien, je déclare que la France reconnaît aujourd'hui l'État de Palestine. Depuis juillet dernier, l'accélération des événements est terrible. Et au point où nous en sommes, il est à craindre que les accords d'Abraham ou de Camp David soient remis en cause par l'action d'Israël et que la paix devienne impossible pour longtemps au Moyen-Orient. Il pèse donc sur nous une responsabilité historique. Nous devons tout faire pour préserver la possibilité même d'une solution à deux États.
Alors j'imagine que tu l'as regardé, ce discours. Qu'est-ce que tu y as vu dans cette déclaration du président de la République ?
Ben, au risque de te décevoir, je ne l'ai pas vu.
D'accord.
Je l'ai entendu après. Parce que de toute façon, en tant que militant de longue date de la cause des Palestiniens, je n'en attendais pas grand-chose de cette reconnaissance. Cette reconnaissance, elle arrive tard, beaucoup trop tard. Ça fait quand même bientôt 2 ans... D'agression, de génocide, de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité. Il faut savoir que 83% des victimes sont des civils, dire même de l'armée israélienne. Et donc les reconnaître maintenant, mais qu'est-ce qu'on reconnaît ? Qu'est-ce qu'on reconnaît au juste ? Un peuple qui a été massacré, génocidé. Pas seulement à Gaza d'ailleurs, mais aussi en Cisjordanie, parce qu'on en parle moins, mais là aussi il y a des exactions qui sont faites contre les Palestiniens avec des expulsions massives, et un pays qui n'a aucune continuité territoriale, qui n'aurait aucun droit, dont le drapeau, je le rappelle quand même, est criminalisé dans un pays, la France, qui reconnaît soi-disant l'État. Alors c'est quoi cet État ? Un État, en plus, on leur impose une solution à deux États, mais est-ce qu'on a demandé l'avis des Palestiniens ? Est-ce qu'on leur a demandé ce qu'ils voulaient, eux, comme solution ? Il me semble que ce sont les premiers, quand même, à qui il faudrait poser la question. Alors, ça a une valeur symbolique, certes, mais ne nous faisons pas d'illusions. Sans sanction contre l'État d'Israël, ça ne sert strictement à rien, et c'est ce que les Palestiniens eux-mêmes disent.
Je lisais, qu'est-ce qui fait les conditions, qu'est-ce qui font qu'un État devient souverain ? Il y a 4 conditions nécessaires, c'est ce que dit la Convention de Montevideo de 1933. Une population permanente, des frontières définies, un gouvernement capable d'exercer son autorité et une capacité à entretenir des relations diplomatiques internationales. Donc on voit qu'au niveau juridique, purement juridique...
On est loin.
Oui.
On est très loin.
Mmh. Tu es la secrétaire de l'AFPS 41. Est-ce qu'on peut rappeler ce qu'est l'AFPS au niveau national et quelles ont été vos dernières actions ?
Alors, l'AFPS, ça veut dire Association France-Palestine Solidarité. Nous sommes énormément de groupes en France, pratiquement chaque département a son groupe de AFPS. Et au niveau local, nous nous sommes mobilisés évidemment dès le 7 octobre 2023 pour montrer notre solidarité avec le peuple palestinien et Razaoui en particulier. Et il nous a semblé important dans ce cadre-là d'élargir nos forces, de rassembler nos forces avec d'autres organisations. Et c'est pour ça que pratiquement dès le début, l'AFPS 41 fait partie d'une inter-organisation Palestine 41 qui regroupe aussi bien des syndicats que des associations que des partis politiques. Mmh. On a besoin vraiment de toutes les forces pour essayer de faire pression. Notre ambition, c'est de faire pression sur le gouvernement. Il me semble que la reconnaissance annoncée par Macron est un résultat, d'une certaine façon, de la pression populaire et des mobilisations qui ont lieu partout en France.
Certainement, oui.
Depuis 2 ans.
Mmh. La solution à 2 États qu'évoque Emmanuel Macron dans son discours, c'est le principe des accords d'Oslo signés en 93 entre Yitzhak Rabin et Yasser Arafat. Je vous propose de replonger dans une archive de l'époque, dans un reportage de France 2 de l'époque pour en parler.
Il était donc 17h47 très précisément lorsque messieurs Rabin et Arafat se sont serrés la main à Washington quelques minutes après la signature de l'accord dit de Gaza-Jéricho d'abord. Récit Michel Monponté.
Devant 3000 invités triés sur le volet et des centaines de millions de téléspectateurs sur ces pelouses de la Maison Blanche, 3 hommes pour une image que beaucoup croyaient invraisemblable et qui pourtant aujourd'hui à 17h13 est entrée dans le livre d'images de l'histoire. Au chapitre espoir. Bill Clinton, le président américain, avec à sa droite Yitzhak Rabin, le premier ministre israélien, et à sa gauche Yasser Arafat, le chef de l'OLP, l'Organisation pour la Libération de la Palestine. Sont là tous ceux qui, durant des années, dans l'ombre, en coulisses ou sous le feu des projecteurs, ont œuvré pour que cette rencontre entre ces 2 ennemis d'hier devienne aujourd'hui une première rencontre, mais de paix. Et les premiers mots de Bill Clinton seront justement pour tous les acteurs des chapitres précédents de cette longue marche, à commencer par George Bush, l'initiateur de la première rencontre de Madrid, sans oublier bien sûr Jimmy Carter, l'homme des accords de Camp David. Peut-être le dernier événement heureux en date de cette histoire moyen-orientale, c'était il y a 15 ans déjà. Premier orateur après Clinton à prendre la parole, M. Peres, le ministre des Affaires étrangères israélien. Il va de suite donner le ton de cette cérémonie, grave, responsable et solennelle.
Nous vivons dans un pays très ancien. Étant donné qu'il s'agit d'un petit pays, notre réconciliation doit être grande. Nos guerres étaient longues. Notre paix doit en conséquence être rapide. Il y a des précipices entre nous qu'il faut combler. Je voudrais dire à la délégation palestinienne que nous sommes sincères, que nous parlons sincèrement. Nous ne voudrions pas décider de votre vie ou de votre destin. Nous en avons assez de balles, de fusils. Nous allons prier avec vous, nous allons vous offrir notre aide pour que Gaza et Jéricho soient fertiles de nouveau.
L'aide de ses voisins et de la communauté internationale, c'est justement ce dont a désormais le plus besoin le peuple palestinien. C'est ce qu'a martelé durant son intervention Abou Mazen, le responsable de ce dossier israélien au sein de l'OLP, l'homme qui, dans quelques minutes, va signer ses accords sur l'autonomie palestinienne. Aucun symbole n'a été négligé en ce jour historique, un jour que Washington a pourtant voulu sobre. La table sur laquelle messieurs Peres pour les Israéliens et Abou Mazen pour l'OLP vont signer, c'est celle-là même qui servit à Sadat et Begin pour paraffer le désormais célèbre accord de Camp David. C'était le premier pas entre un peuple arabe et l'État hébreu. Arafat et Rabin, eux, ne signeront pas, laissant cette tâche à leurs ministres des Affaires étrangères respectifs.
Les accords d'Oslo, c'était donc il y a plus de 30 ans. On présente ça souvent comme le moment qu'on n'a jamais revu, où on était le plus proche d'une paix possible, alors qu'en fait, pas forcément.
Non, je veux dire, ceux qui connaissaient bien la question palestinienne savaient que de toute façon, les accords d'Oslo n'amèneraient pas la paix. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que l'État d'Israël, en fait, vit sur une question coloniale. C'est une question coloniale et avec une colonie de peuplement. Dire, dès le début, le projet d'Israël, c'est, comme l'a dit Golda Meir à un moment donné, une terre sans peuple pour un peuple sans terre. Niant complètement l'existence du peuple palestinien, et on retrouve exactement la même chose dans les accords d'Oslo, puisque dans les accords d'Oslo, on n'a jamais abordé ni la question des réfugiés, qui était quand même très importante, ni la question des colonies. Or, on a vu ce que ça a donné Oslo. Ça a donné des colonies illégales installées malgré le droit international, plein de colonies, ce qui fait que maintenant, on a une quantité incroyable de colons. Je veux dire, en ce moment, c'est à 517 000 colons en Cisjordanie, 235 000 à Jérusalem-Est. Comment concevoir un État palestinien alors que le territoire de Cisjordanie est entièrement mité par des colonies qui s'étendent de plus en plus, sans compter le projet actuel de Smotrich, le fameux projet E1, qui coupe la Cisjordanie en deux et qui fera que les Cisjordaniens du nord ne pourront pas accéder au sud et réciproquement et couper complètement de Jérusalem.
Ce projet, pour ceux qui n'en auraient pas entendu parler, à quelle étape il en est ?
Alors, un projet, il est voté. Il est voté, donc il va démarrer. De toute façon, quand il s'agit de colonies, il n'y a pas de problème. Hein. D'autant que celui qui est en charge des colonies, c'est le ministre des Finances, Bezalel Smotrich, qui est un suprémaciste bien connu et qui est sur des positions absolument extrêmes, et qui a dit d'ailleurs carrément que faire ce projet, c'était faire en sorte que les États occidentaux hypocrites n'aient plus rien à reconnaître. Il l'a dit lui-même.
La solution à deux États dont parle Emmanuel Macron, on entend parler aussi de solution d'État binational. Pour toi qui connais bien la cause palestinienne, voilà, est-ce qu'il y a une solution laquelle serait la moins douloureuse ?
C'est pas à nous de décider, c'est au peuple palestinien de décider. Il a le droit à l'autodétermination, le droit international le lui reconnaît, c'est à lui de décider des formes. Mais c'est évident que lorsqu'on voit les faits accomplis sur le terrain, une carte simplement morcelée de la Cisjordanie complètement mitée par les colonies, c'est sûr qu'il y a un État, effectivement, c'est l'État d'Israël. Il faut le reconnaître comme ça. Je veux dire, ils ont prévu d'annexer la Cisjordanie. C'est prévu en représailles justement à la reconnaissance par l'immense majorité des pays du monde de l'État de Palestine. Donc un État binational avec des droits égaux pour tous serait évidemment l'idéal. De toute façon, il ne faut pas oublier que ça, c'était le projet de l'OLP, de l'Organisation de Libération de la Palestine, au moment de son congrès et sa charte d'Alger de 1988, un État démocratique laïque où tout le monde pourrait vivre en paix avec les mêmes droits et les mêmes devoirs. C'est ça, effectivement. Mais ça, on oublie que l'OLP l'avait mis en avant il y a fort longtemps.
Ce qu'on entend beaucoup dire dans les médias et dans une partie de la population, ce serait que la reconnaissance serait un soutien au Hamas, alors que le Hamas ne veut pas des deux États. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de la position du Hamas sur cette reconnaissance ?
C'est la propagande israélienne, pardon, la Hasbara. Dire que la reconnaissance de la Palestine, de l'État de Palestine, serait une récompense du Hamas, mais pas du tout. Il suffit de voir quelle est la situation sur le terrain. Le Hamas, c'est une milice avec peut-être encore du monde. Ils ont peut-être recruté, sans aucun doute, malgré les dégâts qui ont été faits par l'agression des forces d'occupation. Mais je veux dire, qu'est-ce que ça veut dire ? Quelle victoire ? Qu'est-ce qu'ils pourraient en tirer ? Il suffit de regarder, je veux dire, ils n'ont aucun intérêt à ce qu'il y ait une reconnaissance, parce que de toute façon, je pense que ça permet, au contraire, que la reconnaissance de l'État de Palestine actuellement permet en fait la continuité du génocide actuel, d'une certaine façon. C'est une précaution, ils sentent que l'opinion publique, l'opinion publique est absolument horrifiée de ce qui se passe actuellement. Je veux dire, il faut imaginer que les morts à Gaza, ce serait proportionnellement équivalent à 2 millions de morts en France. 2 millions en France. Qui est-ce qui peut l'accepter ? Les blessés, ce serait l'équivalent de 6 millions en France. Je veux dire, est-ce qu'on mesure l'horreur de ces chiffres ? Donc, dire que reconnaître un État de Palestine serait un cadeau au Hamas, je ne vois vraiment pas en quoi. Franchement, je ne vois pas.
À l'AFPS, est-ce que vous avez des contacts encore avec des Gazaouis ? Et est-ce que vous avez des nouvelles encore du terrain ?
Oui, oui, bien sûr. Alors, c'est par l'intermédiaire de l'Association nationale. Il y a toujours des fonds qui partent en Cisjordanie en particulier pour l'AFPS. Mais pour les soirées de solidarité que nous avons faites et à Blois et à Vendôme, les fonds ont été partagés à part égale entre l'AFPS et l'UJFP, c'est-à-dire l'Union juive française pour la paix, qui, elle, a des programmes sur place à Gaza même. Et là, il suffit d'aller sur les sites nationaux de l'UJFP, il y a des comptes rendus quotidiens des actions qui sont faites et qui peuvent aller de la distribution de vêtements, de tentes, de couvertures, à des cours d'alphabétisation ou à des sessions de soutien psychologique, à des sessions à destination des enfants, des femmes surtout. Donc c'est très très difficile, c'est très difficile. On a essayé de couper justement le canal financier entre la France et Gaza, puisque le compte bancaire de l'UJFP, après 15 ans ou 20 ans, je ne sais plus exactement, a été gelé du jour au lendemain, sans aucune explication. Alors ils ont trouvé d'autres moyens. Mais voilà, je veux dire, il y a toujours de l'argent qui part. Et on a donné aussi, à un moment donné, à une organisation qui s'appelle Palmed, qui est une organisation qui existe au niveau mondial, de médecins palestiniens, d'origine palestinienne, qui sont dans différents pays d'Europe, et donc qui ont des actions aussi sur le terrain, qui payent des salaires pour des soignants, des aides-soignants, des paramédicaux.
L'offensive sur Gazaville, elle continue. Le 11 septembre, l'armée israélienne annonçait occuper 40% de la ville de Gaza. Quelles sont les dernières nouvelles et où vont les Gazaouis ? Par où peuvent-ils fuir ?
Eh bien justement, c'est la question. Comment fuir ? Comment fuir alors qu'ils ont coupé une des routes, la route principale qui va du nord au sud de la bande de Gaza. Et donc c'est juste la route côtière qui permet de fuir. Mais ils fuient sous les bombes, ils fuient pour aller où ? Je veux dire, la population est concentrée. Et ils utilisent d'ailleurs ce terme-là, les Israéliens. Ils parlent de concentration, de camp de concentration. Ils disent « rikouz », ça veut dire « concentration ». Donc c'est pas, faut faire attention aux mots. Hein, on sait, je veux dire, quand on est israélien et qu'on emploie le mot concentration, on sait ce qu'on dit. Donc on voit bien qu'il y a une volonté là. Donc ils sont concentrés sur 12% à peu près de la superficie de Gaza, qui est toute petite. Hein. Donc je veux dire, non, on sait ce que ça veut dire. Ça veut dire encore plus de massacres, encore plus de tueries et on va essayer de les pousser vers le sud, avec sans doute l'espoir de les laisser passer du côté égyptien, à la frontière égyptienne. Sauf que du côté égyptien, on n'en veut pas, parce qu'on a peur des bouleversements que ça pourrait faire. L'Égypte a déjà accueilli 100 000 blessés Gazaouis depuis le début de l'offensive, depuis octobre 2023. Je veux dire, c'est un pays très nombreux, certes, 110 millions d'habitants, mais où le niveau de vie n'est pas extraordinaire, où 2/3 de la population est sous le seuil de la pauvreté. Donc voilà, sans compter les réfugiés soudanais qui sont aussi en Égypte, hein, et qui se comptent par millions.
Quel est un peu le projet de Netanyahou vis-à-vis des pays limitrophes, justement ?
Alors, bon, je crois qu'il est dans l'hubris totale, ce Netanyahou, puisque il bombarde tous les pays, il attaque tous les pays aux alentours. On a vu déjà qu'il a pratiquement annexé une partie du sud du Liban avec installation de postes militaires. Il a fait la même chose en Syrie, en dehors du Golan, hein, qu'il occupe déjà illégalement. Avec aussi ces bombardements sur Doha, par exemple, sur le Qatar, qui, on voit bien, l'Iran, enfin, je ne vois pas quel est le Yémen aussi, la capitale du Yémen, Sanaa. Donc, aucun pays de la région n'est à l'abri de Netanyahou, et on sent une volonté de rendre, comment dire, concrète ce projet du Grand Israël qui engloberait pratiquement tous les pays de la région. Je veux dire, c'est complètement aberrant. S'il n'y a pas de sanctions fortes, efficaces contre Netanyahou, on ne voit pas ce qui pourrait l'arrêter.
Ces sanctions, on voit que, bien sûr, ce sont les vétos des États-Unis qui souvent empêchent toute mise à l'œuvre. Tant que Trump est au pouvoir, qu'est-ce qu'on peut attendre de ce côté-là ?
C'est là où on se trompe. Parce que le plus grand, le partenaire commercial le plus important d'Israël, c'est l'Union européenne. D'accord. 33% des échanges commerciaux se font avec l'Union européenne. Alors je sais bien qu'il faut une majorité qualifiée de l'Union européenne pour prendre des sanctions. Ils commencent à en parler d'une façon extrêmement timide. Mais rien n'interdit à un État de prendre des sanctions lui-même. C'est ce que fait l'Espagne, par exemple. Bon, donc je ne vois pas pourquoi Macron, puisqu'on est en France, hein, on va quand même parler d'abord de la France, on ne voit pas pourquoi Macron ne prend pas de sanctions s'il est si soucieux de l'avenir du peuple palestinien. Il devrait prendre immédiatement des sanctions contre Israël, accepter qu'il y ait un embargo sur les armes, parce que ça a été documenté par Amnesty Stop Arming Israel, que la France n'a jamais cessé de livrer des armes à Israël. Alors on se défend en disant que ce ne sont pas des armes offensives, etc. Mais ce sont des pièces qui permettent le fonctionnement d'armes offensives. Donc voilà, il faut être logique avec soi-même.
D'où l'importance aussi du boycott. Vous Absolument. En parlez beaucoup à la FPS.
Oui, oui, oui. La FPS fait partie de la campagne BDS, boycott, désinvestissement, sanctions. Et on essaye de se polariser, de se concentrer sur quelques grandes marques pour que ce soit efficace. Mmh. Et on a eu déjà des victoires, puisque Adidas, par exemple, s'est retiré, n'équipe plus l'équipe de football israélienne, par exemple. Il y a de temps en temps quand même des victoires, des fonds d'investissement étrangers, en particulier norvégiens, qui étaient très importants, qui se sont retirés d'entreprises israéliennes. Donc ça peut effectivement marcher, parce que c'est sur... D'abord, il faut savoir que ce sont les Palestiniens eux-mêmes qui nous demandent ça. Ce n'est pas une invention de soutien européen occidentaux. Ce sont les Palestiniens eux-mêmes qui demandent ça.
Je te propose de faire une première pause musicale. On va écouter un morceau repris par Sana Moussa. C'est une Palestinienne qui travaille pour sauvegarder la richesse des chants anciens et des chants folkloriques palestiniens qui préservent l'héritage des générations à venir. Elle avait entrepris il y a quelques années de se plonger dans un héritage de chansons rarement évoquées, tout en travaillant sur la musique de son album. C'est un morceau donc de l'album Ishraq Reminiscence, désolé pour la prononciation, un album de 2016 dans lequel donc elle a incorporé les chansons et sons d'une génération de femmes qui ont connu la Nakba. On écoute le morceau « Weyanouéa ».
وعيونها يطري وتقولي فنجان فنجاني تنمي القهوة ميمتلية وعيونها يطري وتقولي فنجان فنجاني تنمي القهوة حلوة يا عيونك يا عيونك يا عيونك. وسنوني هاي طيري وتقولي مرجان مرجاني على العلوم يختلي. وسنوني هاي طيري وتقولي مرجان مرجاني على العلوم يختلي. يا عيونك سود وحلوة يا عيونك سود وحلوة يا عيونك يا
Nous sommes toujours dans la lorgnette sur Studio Zef sur le 91.1 à Blois et le 91.7 à Vendôme. Et on a le plaisir d'accueillir Elsa Petit-Hassan, secrétaire de l'AFPS 41, pour parler de Gaza et de la reconnaissance de la Palestine par la France. On a écouté le morceau Wayunea. Est-ce que Elsa, tu peux nous traduire un petit peu ce que tu en as compris ?
Ce que j'en ai compris, c'est qu'on parlait des yeux noirs, bruns, d'une petite qu'on compare à un oiseau. Mmh. Voilà.
Oui, certainement une comptine ancienne.
Oui, sans doute.
Une chanson chantée aux enfants. Tu nous parlais des actions déjà avant cette musique de l'AFPS. Vous en entamez aussi sur le plan juridique.
Voilà, parce que c'est très important. Il faut savoir qu'Israël a la force, sans doute, mais les Palestiniens, ils ont le droit pour eux. Voilà. Et donc, le 19 juillet 2024, la CIJ, c'est-à-dire la Cour internationale de justice, a rendu un avis consultatif historique qui porte sur les conséquences des politiques et pratiques d'Israël dans les territoires palestiniens occupés, c'est-à-dire aussi bien la Cisjordanie que Gaza que Jérusalem-Est. Et les conclusions, c'était que la présence israélienne était illégale dans le territoire palestinien occupé, parce qu'il y avait annexion, destruction de terres, accaparement des ressources naturelles. Et ça concluait à l'obligation pour Israël de cesser immédiatement toute nouvelle activité de colonisation et de démanteler les colonies déjà existantes. Le 18 septembre 2024, l'Assemblée générale des Nations unies, donc 124 pays, dont la France, ont voté la résolution qui reprend les recommandations de cette Cour internationale de justice. Mais, pratiquement 2 ans après, on s'aperçoit que rien, strictement rien, n'a changé. Et donc, normalement, c'est aux juridictions pénales françaises de faire l'usage de leurs compétences afin d'enquêter, poursuivre et juger les agissements de tout ressortissant français, auteur ou complice de crimes liés à la colonisation. Et c'est d'autant plus important qu'on sait qu'il y a un nombre important de binationaux franco-israéliens qui ont participé au génocide en cours à Gaza. Et donc, il y a action en justice avec deux cabinets d'avocats parisiens pour démêler cette histoire.
Mmh, il y a un article en une sur le site de l'AFPS sur ce sujet-là.
Ah, c'est possible.
Si on veut en savoir plus.
Oui, d'accord.
Oui. J'avais aussi envie qu'on parle des journalistes, Reporters sans frontières. L'ONG estime que plus de 200 journalistes ont été tués par l'armée israélienne depuis l'attaque terroriste du 7 octobre. Et elle lance un appel pour que cessent les meurtres à Gaza. Les journalistes, c'est l'une des fenêtres sur les événements qui se passent à Gaza qui restaient, et est-ce qu'il en reste encore certains à suivre?
Alors bon, moi je suis quotidiennement les informations sur la Palestine, sur Al Jazeera, en sachant très bien quand même par qui Al Jazeera est financé par le Qatar. Ils sont pas nécessairement bons, mais à regarder quand même, parce que c'est là où on a l'information. Donc il y a encore des... Je suis assez surprise de voir qu'il y a encore des reporters, des correspondants d'Al Jazeera sur place qui parlent de différentes parties de la bande, pas seulement à Gaza, mais aussi Khan Younes au milieu et Rafah aussi. Donc je suis très très étonnée parce que je sais qu'ils sont dans des conditions absolument dantesques, épouvantables, puisque l'accès à l'électricité est très très rare et les rares panneaux solaires sont détruits systématiquement. Que par ailleurs, justement avant l'offensive sur Gazaville, Israël avait coupé tout accès à Internet, donc ça rend les choses très compliquées. Mais c'est quand même une source d'information et on voit bien pourquoi Israël a interdit à tout journaliste de rentrer dans la bande, hein, parce qu'ils savent très bien ce qu'ils font, c'est-à-dire tuer sans distinction aussi bien femmes qu'enfants, etc. Et il y a une équipe qui s'appelle une équipe de légitimation au sein de l'armée israélienne pour faire une propagande, pour déconsidérer les témoignages des journalistes Razaoui. Et d'ailleurs, on se rend compte que les arguments sont toujours les mêmes. Je veux dire, quand on cible des civils ou des journalistes, c'est parce qu'ils appartiennent au Hamas. Le cas le plus emblématique, c'est lorsqu'ils ont tapé le 9 août, les cinq journalistes d'Al Jazeera, dont Anas El-Sharif, qui était hyper connu, en disant que Anas El-Sharif était membre du Hamas. Je veux dire, moi, je l'ai entendu, je ne sais pas combien de fois en reportage. C'est complètement ridicule, je veux dire, il rendait compte, il faisait son travail de journaliste. Mais la propagande israélienne, qui est quand même assez souvent reprise par les médias mainstream français, jetait la suspicion en permanence sur ce que pouvaient dire les journalistes Razaoui.
Et moi-même, en préparant cette émission, j'avais juste tapé sur YouTube Gaza, c'est tout. Et dans les premiers résultats, je suis tombée sur une suggestion. Le titre était « Images réelles des marchés alimentaires de Gaza de juillet à août 2025 ». Donc quand on regardait la vidéo, c'était des belles images d'un marché bien fourni.
Bien sûr.
Et c'était le nom de la chaîne YouTube était « Israel Foreign Affairs Ministry ». Et c'était vraiment dans les premiers résultats. Donc on sent que la propagande, elle est...
Marche très bien.
Elle est aussi sur les réseaux très forte.
Bien sûr.
On parlait de journalisme et ça tombe bien, il y a une projection au Lobis en ce moment. Vous avez fait une projection débat autour du film Put Your Soul on Your Hand and Walk. Est-ce que tu peux nous parler de ce film qui est toujours à l'affiche au Lobis et qu'on peut continuer à aller voir?
Alors oui, c'est un film absolument magnifique. Il s'agit de la... Enfin, dire... l'exposition de conversations qu'ont eu en visio Sepideh Farsi, qui est une cinéaste iranienne réfugiée en France, avec Fatem Hassouna, une photographe Razaoui, qui habite Razaville. Parce qu'en fait, Sepideh Farsi voulait aller à Raza. Quand elle a vu ce qui se passait, elle a essayé, elle est partie au Caire pour essayer de passer, mais évidemment le passage était fermé. Et donc elle s'est décidée à rencontrer des réfugiés razaouis au Caire. Et c'est par l'intermédiaire de l'un de ces réfugiés qu'elle a eu le contact, enfin la possibilité d'entrer en contact avec Fatem. Et c'est assez émouvant de voir ces conversations entre elles deux, leur joie de se retrouver lorsqu'il s'est passé plusieurs jours entre deux conversations. Et ce qui illumine ce film, malgré l'horreur de ce qui est décrit, c'est ce sourire éclatant de Fatem tout au long du film. C'est l'affiche d'ailleurs, c'est l'affiche qui montre ce visage en gros plan avec un grand sourire. Et on se rend compte à quel point, je veux dire, il y a une volonté de vivre malgré tout. Vivre malgré tout. Et elle explique d'ailleurs, Fatem, que dans ses photos... à chaque fois qu'elle prend une photo, elle essaye de montrer de la vie. Alors, soit des enfants, soit une tache de couleur dans un paysage de ruines, de désolation. Elle essaye toujours de trouver une petite part de vie. Et je recommande vraiment très fortement à tous les auditeurs d'aller voir ce film s'ils ne l'ont pas déjà vu.
Et il est toujours à l'affiche au Lobis, oui. Au moins cette semaine, et je pense encore pour un petit moment.
Oui. Alors nous, on a présenté un film là, il y a quelques jours, avec un réalisateur palestinien qui venait de Cisjordanie et qui a montré à quel point les exactions des colons empêchent la vie quotidienne des habitants de Cisjordanie, en particulier en ce qui concerne les villages. Les bergers qui ne peuvent plus faire paître leur bétail, leurs moutons, leurs chèvres, qui leur sont volés. Difficulté aussi de récolter les olives alors que c'est leur seule source de revenus. Je pense que la salle était assez contente d'entendre un témoignage de vive voix d'un Cisjordanien qui était là en France depuis 15 jours.
Je voulais, pour terminer cette émission, qu'on parle des mobilisations. Vous les multipliez ces derniers mois. En Italie, il y a quelques jours, plusieurs centaines de milliers de manifestants se sont retrouvés dans les rues en soutien, en solidarité avec les Palestiniens et Palestiniennes. Ils avaient déclaré un jour de grève nationale, de grève générale. Pourquoi cet élan en Italie, est-ce que tu sais des choses là-dessus ?
Sûr.
Pourquoi cet élan en Italie, pourquoi en Italie ça
mais
prend ?
Partout en Europe, sauf en France. C'est là, nous sommes l'exception justement. Je pense que la France a une histoire un petit peu particulière, et avec Israël, et avec ce qu'est la colonisation, malheureusement. Je pense que les Palestiniens sont assimilés à des Arabes, ce qu'ils sont de fait, mais bon, on sait dans quel climat politique on vit actuellement en France, et je pense que ça explique la faiblesse des mobilisations, alors qu'elle est bien plus puissante, que ce soit en Espagne, en Italie, ou même aux États-Unis, sur les campus, malgré la répression féroce dont elle fait l'objet. Mais enfin, il ne faut pas être non plus trop pessimiste, parce qu'il y a des sections syndicales, en particulier des dockers CGT de Fos-sur-Mer, qui ont empêché l'envoi d'armement en Israël. De la même façon, à Roissy-Charles de Gaulle, les syndicats aussi ont empêché l'envoi, l'expédition de matériel militaire. Donc il y a des endroits, des poches de résistance, et malgré la répression, parce qu'il ne faut quand même pas mettre de côté la répression. Il y a des gens qui sont toujours poursuivis actuellement pour apologie du terrorisme, et il y a des associations, en particulier Urgence Palestine, pas Urgence Palestine, mais une autre association qui est dissoute, donc il faut faire attention.
On criminalise
absolument. Absolument.
Le soutien à la Palestine, pardon. Du côté d'Israël, il y a aussi des poches de résistance. Qu'est-ce qu'on sait de la mobilisation là-bas sur place ?
Alors, ce qu'on montre beaucoup actuellement, c'est des mobilisations énormes, effectivement, en particulier devant la maison de Netanyahou, à Tel Aviv, sur les places des otages, etc. Ils sont très opposés à la politique de Netanyahou, mais ce n'est pas du tout en faveur des Palestiniens. Eux, ils s'en fichent. Ce qu'ils veulent, c'est le retour des otages. Ceux qui sont vraiment en position, je veux dire, à soutenir les Palestiniens sont extrêmement minoritaires, en particulier quelques jeunes qui refusent de faire leur service militaire, ce qui est très coûteux d'un point de vue social et pour ceux qui prennent cette voie-là. Mais il ne faut pas se faire d'illusions lorsqu'on nous montre ces manifestations, par exemple à la télé française, on ne montre pas en fait quelle est leur position réelle. C'est montré comme une opposition au gouvernement et a priori contre sa politique, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. La population, enfin le peuple israélien est majoritairement pour la colonisation. Majoritairement. Ils sont nourris, ils sont bercés dès tout petits, dès la maternelle. Je veux dire, il y a un autre film qui est passé au lobbyiste qui s'appelle Chronique de Haïfa, qui montre une famille chrétienne, palestinienne d'Israël avec la nationalité israélienne. Et on voit l'une des jeunes femmes travaille dans une crèche ou une maternelle israélienne. On voit comment on les formate, on les soumet à une espèce de lavage de cerveau où on glorifie l'armée, ce qui paraît aberrant avec des petits de 3 ans. Enfin, je veux dire, c'est complètement fou à voir.
Glorifier l'armée, ça fait une bonne transition vers la recommandation du jour. Pour chaque épisode de La Lorgnette, on essaie de vous proposer des livres, des films, des podcasts ou autres à découvrir autour du sujet. Elsa, tu as préparé des choses. Je vais commencer. Moi, je voulais vous parler d'une vidéo du youtubeur Charles Villa et grand reporter qui travaillait jusque-là pour Brut, mais qui a arrêté sa collaboration avec ce média il y a peu. C'est une vidéo qui traite du sujet des soldats israéliens dans le conflit et de la manière dont ils se mettent en scène à Gaza en toute impunité. Et voilà, c'est vraiment une vidéo assez édifiante sur, comme tu le disais, la manière dont les soldats ont le cerveau lavé et se mettent en scène sur TikTok, sur les réseaux sociaux, en commettant des atrocités. Je vous propose d'écouter un extrait.
Depuis que l'armée israélienne est rentrée dans la bande de Gaza, des centaines et des centaines de soldats israéliens se filment et se mettent en scène dans la zone de conflit pour les réseaux sociaux, principalement TikTok et Instagram, souvent pour humilier les Palestiniens et se moquer de leurs conditions de vie, mais aussi parfois pendant qu'ils commettent des exactions.
Regarde, tu vas montrer son dos, tu vas rigoler, regarde. Ils vont torturer, pour le faire parler. Bande d'enculés, fermez vos gueules, bande de salopes.
Pour m'aider à contextualiser les images que vous allez voir, j'ai pu discuter avec Michel Goya, un ancien colonel de l'armée française, et Samuel Fauré, qui est correspondant pour le journal Le Monde à Jérusalem et qui couvre le conflit depuis plusieurs années. Je voulais documenter ces vidéos parce que certaines peuvent être considérées comme des crimes de guerre, mais aussi pour montrer le sentiment d'impunité de certains soldats. L'armée israélienne, qu'on appelle aussi Tsahal, se revendique depuis longtemps comme l'armée la plus morale du monde. Ces éléments de langage sont relayés par le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et les membres de son gouvernement. Mais c'est aussi une forme de communication qu'on peut retrouver un peu partout sur Internet ou dans des médias proches du pouvoir. Par exemple, sur le site de la chaîne d'information en continu I24 News, qui est basée en Israël et réputée proche du gouvernement de Netanyahou, on trouve cet article publié en novembre 2023, plus d'un mois après le début des bombardements dans la bande de Gaza, suite aux attaques du Hamas le 7 octobre. L'auteur de l'article écrit qu'à aucun moment du conflit actuel, mais aussi de toute son histoire, Israël n'aurait contrevenu à la législation internationale ni à la Convention de Genève. Un peu plus loin, il parle aussi des valeurs de Tsahal qui seraient le respect de la dignité humaine, la responsabilité personnelle, l'intégrité et le professionnalisme. Bon, déjà, il y a plusieurs choses qui sont factuellement fausses dans cet article, mais surtout, au moment où il sort, plusieurs crimes de guerre contre des civils dans Gaza avaient déjà été documentés au cours du mois d'octobre et de novembre 2023. J'avais d'ailleurs fait une vidéo en janvier dernier qui montre certains de ces crimes. Je vous recommande d'aller la voir parce qu'ici, je vais plus m'attarder sur les comportements des soldats. Pour commencer, il y a beaucoup de soldats qui se filment en train d'essayer de faire des blagues dans les ruines et les décombres. Des vidéos comme celle-ci, il y en a énormément sur les réseaux sociaux. Un des problèmes avec ce genre de comportement, c'est que ça donne l'impression que la guerre est un jeu. You gotta let it burn, baby, burn, baby. Ils se mettent en scène dans des lieux où il y a eu des combats et sûrement des morts, notamment des civils. Ces vidéos et photos, elles sont aussi extrêmement problématiques parce qu'il faut mettre en parallèle le bilan des crimes de guerre de l'armée israélienne. Selon les Nations Unies, ils ont massacré plus de 14 000 enfants dans les bombardements et les combats. 14 000 en seulement 8 mois. C'est simple, il n'y a pas d'équivalent en si peu de temps dans l'histoire récente, et je ne parle même pas de tous ceux qui ont été blessés ou amputés et qui auront des traumatismes et des séquelles à vie.
Alors la vidéo date d'il y a un an, donc bien sûr les chiffres ne sont plus les mêmes. Et la vidéo s'appelle, si vous voulez la retrouver, « Palestine, j'ai enquêté sur les soldats israéliens qui se filment dans la bande de Gaza ». Et voilà, en plus de l'horreur de la guerre, on découvre un peu l'horreur de la mise en scène et cette communication assez atroce.
Et cynisme.
Oui,
et
exactement.
Cynisme sans borne.
Oui.
Alors, au sujet de ce qui est dit dans ce son, je voudrais dire que Tsahal, nous ne le pourrions jamais. Parce que Tsahal, en hébreu, veut dire « force de défense israélienne ». Or, ils ne font que agresser, et donc nous préférons dire « les forces d'occupation israéliennes
». Voilà. Toi-même, Elsa, tu voulais nous parler de deux ouvrages.
Oui, je voulais vous parler de deux livres. Le premier, c'est « Ceux qui voudraient avoir une idée de l'histoire de la Palestine, une histoire de 4000 ans ». Par le grand spécialiste historien qui s'appelle Henri Laurence. Ça s'appelle « Questions juives, problèmes arabes ». Alors, il est parti de 1798, et il n'est pas parti avant Jésus-Christ, il aurait pu. Mais là, c'est 1798-2001. C'est aux éditions Folio, en poche. Et donc, c'est tout à fait accessible et c'est vraiment la somme sur la Palestine pour comprendre un petit peu les racines du problème actuel, dans quoi on se retrouve actuellement. Et alors...
Le deuxième est un ouvrage plus récent.
Non, celui de Henri Laurence, il est récent aussi. Hein, il est tout à fait récent.
D'accord.
Il est sorti il y a peut-être un mois ou deux,
pas plus.
Et l'autre qui est encore plus récent, c'est celui qui s'appelle « La mort est en train de changer » de Dominique Edé, qui est une écrivaine libanaise et qui écrit superbement bien et qui est avec une façon de voir les choses, peut-être d'une façon, peut-être, je dirais, moins politique, mais plus poétique. Mais on a besoin de poésie, de toute façon. Voilà, et c'est aux éditions Les Liens qui Libèrent.
Eh bien, merci beaucoup à toi, Elsa, d'être venue en studio pour parler de la situation à Gaza et de cette reconnaissance de l'État de Palestine, dont on a bien compris qu'elle laisse un peu planer de peu d'espoir. On vous souhaite une bonne soirée à toutes et à tous. Cette émission sera réécoutable sur le site de Studio Zef, studiozef.fr en podcast. Et puis, à la semaine prochaine pour un autre sujet. Merci, Elsa. يا عيونك سود وحلوة يا عيونك سود وحلوة يا عيونك